Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Pascale de la Tour du Pin, qui est la présentatrice phare de la matinale de LCI depuis plusieurs années maintenant. Dans cet épisode, on parle ensemble du parcours de Pascale vers l'école de journalisme, comment elle a défié l'autorité parentale pour y rentrer, de son amour très tôt pour les infos et pour la radio, comment elle en est arrivée à animer une matinale radio avant de basculer à la télé, où elle gère seule la matinale de LCI depuis plusieurs années maintenant. Un créneau très exigeant puisque Pascale se lève toutes les nuits à 2h du matin pour réveiller les spectateurs de LCI à partir de 6h. Elle vit cette existence décalée depuis 10 ans maintenant, mais c'est apparemment un rythme qui lui convient parfaitement. Vous verrez, on en parle. Enfin, on parle d'être une femme, seule à la manœuvre, sur un plateau de matinale, qui sont habituellement trustées par les hommes, ou alors par un duo femme-homme. Vous l'entendrez, Pascale, elle, est bien en place et elle gère à merveille ses 2h30 de direct par jour. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de Succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de Succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunsdesucces.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré, sur Spotify ou sur Deezer pour un nouvel épisode d'Histoire de Succès et je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Pascale. On est avec Pascale de la Tour du Pin, salut.
Salut Fabrice, salut à tous.
Ça va?
Ouais, ça va, je sors de l'antenne, je suis content d'être avec vous.
Il est 9h.
Il est 9h du matin.
Ouais. Toi t'es sur le pont depuis quoi, 6h moins le quart, 6h, c'est ça?
Ah, tu plaisantes, je suis sur le pont depuis 2h du matin. Ouais.
Alors j'allais dire, quand je disais sur le pont, c'était à l'antenne.
Ah oui, à l'antenne depuis 5h56, très précisément, ouverture d'antenne à 5h56 le matin.
Ouais. Donc tu te lèves à des heures pas possibles?
Oui, ou... je me lève à des heures pas possibles, au milieu de la nuit, pour pouvoir venir préparer la matinale, bien sûr. Je me lève quoi? Non, à 2h, je me lève à 2h du matin.
C'est... Ok, tu dis ça comme si de rien n'était.
Enfin, c'est un peu le milieu de la nuit, oui, c'est
ça. Et tu fais ça depuis 10 ans?
Plus, plus parce que en radio je faisais aussi ça.
Ah,
donc
okay.
ça me colle effectivement à la peau depuis quelques temps la matinale.
On va en reparler un peu après de ton rythme de vie, etc. et de que tu nous racontes un petit peu tout ça. Avant ça, la question que j'adore poser à mes invités.
Ah, vas-y, je t'écoute.
À quoi ressemblait Pascale quand elle avait 7-8 ans?
Alors, quand j'avais 7-8 ans, j'étais une petite fille pleine de joie de vivre. J'aimais beaucoup être entourée, moi. J'aimais beaucoup avoir du monde. Voilà, j'étais très sociable. Petite fille sociable et qui commençait sa passion pour la danse classique. J'ai pratiqué de la danse classique pendant des années à haute dose, 10 heures par semaine. Et ma passion a commencé à cet âge-là. Voilà, donc 7-8 ans, du monde, envie de rire, joie de vivre et passion donc, pour la danse à cette époque.
Que faisaient tes parents ?
Mon papa était avocat. Ouais. Ma maman travaillait avec lui.
Okay.
J'ai grandi en province, à Périgueux, en Dordogne. J'ai un frère. J'ai grandi dans cet univers. Donc voilà, avec des parents qui étaient très axés sur le travail. Voilà. Le fait de travailler ensemble, tu vois, les déjeuners, les dîners, on entendait souvent les parents parler de leurs affaires. Il y avait prolongement, effectivement, du travail à la maison. Donc j'ai été élevée dans cette ambiance de travail.
Et tu as la sensation que ça t'a un peu conditionné à te dire, OK, le boulot, c'est important?
Ouais, je crois. Ouais. Effectivement, la valeur travail était très importante chez moi. Et c'est une valeur effectivement qui m'a été transmise par mes parents. Je trouve que c'est une chance finalement aujourd'hui, mais voilà, c'était vraiment une valeur importante. Voilà, fallait travailler, le travail était une était une priorité, enfin peut-être pas une priorité parce qu'il y avait plein d'autres choses et d'autres valeurs évidemment qui m'ont transmises, mais le travail faisait partie des valeurs essentielles.
L'école, comment ça se passe pour toi ?
Ah, l'école, j'étais une bonne élève, mais je dois avouer que je faisais partie de ce genre d'élèves qui avaient certaines facilités, par exemple en français. J'étais pas une grosse besogneuse, c'est-à-dire que voilà, j'étais une bonne élève. Mais j'étais pas, j'ai dû être première de classe peut-être, mais je faisais pas partie de ce lot-là. Je m'en sortais. Je dois reconnaître que voilà, j'étais quand même plus tard, peut-être pas à 7-8 ans, mais plus tard, j'avais tendance parfois à me reposer sur mes acquis. Et puis bavarde, aïe aïe aïe, bavardage. Je pense que j'avais sur tous mes carnets.
Est-ce que tu faisais partie de ces élèves qui étaient un peu relous pour les profs, mais suffisamment bruyantes pour qu'ils aient pas grand-chose à en redire, quoi.
Est-ce que j'étais relou pour les profs? Je crois pas avoir été relou pour les profs. Je pense que j'arrivais à rigoler, mais à pas me faire prendre. Ah, et ça, c'est ça.
C'est encore pire.
Ça. C'est toute une étude, tu sais.
Donc voilà. Tu t'as fait, parce que tu racontais que tu faisais 10 heures par jour de danse.
Ah oui, alors ça, c'était une passion. Alors c'était encore autre chose. Ouais. La danse classique, ça m'est.
Parce que 10 heures par jour,
à la fin,
pas
à 7 ans. Ouais. Pas à 7 ans, mais après, à j'ai pensé à un moment en faire mon métier. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je n'aurais pas eu beaucoup d'avenir d'ailleurs. Mais faut être une cils fine, enfin faut être extrêmement fine, il y a plein de choses effectivement, et je cochais pas ces cases là mais ça a été vraiment une passion. Ça m'a appris aussi la rigueur, le travail et tout ça. C'est une discipline, hein, la danse classique.
Et voilà. Et comment t'en es arrivé à faire 10 heures par semaine?
Parce que j'adorais ça, et pas parce que j'avais effectivement, après j'avais préparé des concours pour entrer dans des écoles, et puis finalement mes parents m'ont dit bon allez, la blague a assez duré.
À quel âge?
J'étais au collège. J'étais au collège. J'avais fait du solfège aussi. J'avais appris le piano pour pouvoir effectivement passer ces concours. Et voilà. Et après, mes parents ont sonné la fin de la récréation. Mais ils ont eu raison. Parce que j'aurais pas fait carrière. J'aurais pas fait carrière en danse classique.
Ouais, mais t'aurais pu être, faire autre chose, quoi. Tu vois,
ouais, j'aurais pu être prof de danse classique, c'est vrai. Mais j'ai aucun regret.
Ok.
Aucun regret.
Le cerveau, il n'est pas taillé pour les regrets, je pense.
Non, exactement. Puis là, je suis pas du tout effectivement le genre de personne à avoir des regrets dans la vie.
Okay.
Donc voilà, non, c'était au contraire, c'était enrichissant, c'était une étape, et puis voilà, on est passé.
Donc t'as fait ça pendant tout le collège ?
Ah oui, j'ai fait ça pendant tout le collège. Ouais. Je pense jusqu'à la seconde, tu vois, ouais, tout le collège et le primaire. Et puis après, voilà, je suis passée à autre chose, une autre étape de ma vie. Tu vois, après, j'ai découvert la passion pour le journalisme.
Voilà, j'allais t'en parler. Donc, parce que tu as fait assez rapidement de la radio associative, c'est ça ?
Alors, c'est pas de la radio associative, parce que, en fait, j'ai commencé, j'ai découvert ce métier-là, mais totalement par hasard, en faisant, tu sais, les stages obligatoires de 3e, qui existent toujours. Et comment je me retrouve de fil en aiguille.
Attends, t'avais des stages obligatoires de 3e, toi ?
Bien sûr.
Parce qu'on on se disait avant l'interview.
On a le même âge tous les deux, tu n'as pas eu un stage obligatoire à faire en 3e ?
Non, pour moi, ça existe depuis. Pas finalement si longtemps que ça.
Ah si, je te promets, moi j'avais un stage obligatoire à faire en 3e.
Mais quelle chance.
Pour découvrir l'univers professionnel, tu vois, je te promets.
Ah ouais.
Si t'as dû le faire, tu l'as oublié, je pense.
Non, je te promets que non.
Ou alors c'est un mauvais souvenir, peut-être, non.
Mais non.
Non.
Mais non, je te jure que c'est... Ou alors t'étais dans un collège privé ou un truc comme ça qui te poussait à faire ça, parce que dans le public, je pense pas que ça existait.
Ah ouais. Bah écoute, alors écoute, tu vois, moi j'ai fait le stage de 3e.
Bah tant mieux.
Ouais, voilà. Mais bien sûr, tant mieux, parce que c'était une super expérience, à tel point voilà, que ça dessinait le reste de ma vie. Tu vois, une passion en chasse une autre, et plus dans ce classique, j'ai trouvé la passion pour le journalisme.
Okay.
Et voilà, c'est un stage de 3e, je vais en radio, alors c'était France Bleu Périgord.
Comment tu te retrouves là?
Eh bien, je me retrouve là parce que ça m'intriguait, que je voulais connaître effectivement comment ce métier. Enfin, c'était un métier qui correspondait peut-être à mes envies, ma curiosité. Toi, j'étais quand même assez curieuse. Je me souviens, je m'amusais à faire sur des cassettes. Alors, tu sais ce que c'est, toi, les cassettes.
Les cassettes audio.
Les cassettes audio. Je m'amusais à faire des petits montages avant de commencer ce stage chez France Bleu. Je commençais à faire des petits montages pour mes copains, tu vois, en mixant, entre guillemets. J'avais pas de matériel pour mixer, mais
débrouillé
avec Play, tu te souviens, ouais. Play, stop, enregistre.
Ah, vous vous souvenez pas, les jeunes qui
voilà,
vous ont gardé, mais à l'époque, il y avait des cassettes avec des bandes.
Ouais, c'était une galère d'ailleurs pour monter, tu sais, tu te souviens de ça.
Et puis si tu remontais au-dessus, ça flinguait ta cassette.
Et exactement, puis si tu mettais le doigt dessus aussi,
alors,
ça
oui.
Flinguait la bande son.
Non mais dites donc, quelle horreur. Et puis pour rembobiner, tu prenais un stylo et tu tournais pendant une demi-heure.
Ben oui, on a connu ça.
T'en fais vraiment des vieux, alors qu'en fait, en vrai, c'était il y a...
C'était quand même il y a 15
piges.
Ouais, c'est ça, ouais, un peu plus même. Mais
25, pardon.
Ouais, c'est ça, 25, je n'osais pas te reprendre. Non, on n'est pas si vieux que ça, tu sais. Donc voilà, c'est comme ça, ça commence comme ça. Et je pense que je me dis, je m'intéresse à la radio. Alors moi, ma passion, c'était la radio.
Mais pourquoi ? Elle te vient d'où,
cette... Le son. J'adorais le son. Je trouve que d'ailleurs, ce que tu fais, c'est formidable. Parce que je trouve que la voix, avec la voix, tu peux faire passer effectivement des messages, des informations, les intonations de la voix. J'aimais bien ce côté. C'est un côté un peu mystérieux, la radio.
Ouais.
C'est un côté. Voilà, ça, ça fait travailler l'imaginaire. Et à la fois, c'est très informatif. C'est aussi rapide, effectivement, que la télé ou Internet. Voilà, c'est l'immédiateté. Mais j'aimais beaucoup ce côté un peu mystérieux de la radio. Donc moi, je voulais faire, voilà, je voulais découvrir, c'était la radio ma passion.
J'avais vu Vincent Lindon qui poussait un coup de gueule sur, alors je sais plus où, c'était France Inter, je pense, sur le fait qu'il y ait des webcams maintenant dans les studios.
Ouais,
et il disait, mais arrêtez, en fait, la radio, c'est à la base du son, et aujourd'hui, on est tellement dans une société qui est obsédée par l'image que, et je suis assez content que, en fait, les podcasts reviennent un petit peu, parce que, effectivement, ça te remet du son dans les oreilles, et tu peux faire autre chose de ta vie, t'es pas obligé de regarder l'écran.
Pas obligé, ouais, c'est une très belle chose, effectivement, faut pas que ça s'arrête, ça.
Ouais.
Au contraire, c'est agréable de pouvoir écouter tout en faisant autre chose.
Mais alors, la passion de la radio te vient aussi de... Est-ce que, je sais pas, tu faisais partie de... Enfin, donc on disait qu'on avait le même âge, mais moi j'écoutais la radio le soir, j'écoutais Skyrock le soir, tu vois, j'écoutais la radio libre, etc. Enfin, la radio libre.
Radio libre, c'était fini. Hein,
non, c'était fini.
À cette époque-là.
Mais en fait, il y avait.
On n'a pas eu cette chance de connaître.
Il y avait une émission d'un
libre.
Mec qui s'appelait Maurice. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose.
Maurice, non, ça me. Attends. Maurice.
Sur Skyrock.
Ah ouais,
oui,
Skyrock.
Il reprenait des gens au téléphone.
Ah oui.
En fait, bon, voilà, tu vois, j'étais censé dormir normalement au collège et le soir, j'écoutais ça sous la couette. Quoi, tu vois. Est-ce que tu as eu des expériences comme ça aussi ou...
Alors, ça, c'était de la musicale. Alors, j'ai toujours été passionnée par l'info, moi.
Okay.
Donc, alors, oui, j'écoutais des musicales, mais alors, Skyrock, écoute, peut-être moins. Je pense que j'écoutais Énergie, je me souviens plus trop, mais plutôt Énergie.
Quand t'écoutais Europe 1 à 15 ans?
Ouais, j'écoutais. Alors, c'est marrant. Non, j'écoutais pas Europe 1 à 15 ans. non, mais j'aimais bien l'information, tu vois, effectivement, le journal télévisé. J'étais très attirée par l'information.
D'accord.
Et le reportage de terrain, en fait, c'était ça. Moi, quand j'ai commencé mon métier, c'était ça que j'ai adoré. La radio, t'allais raconter une histoire, du reportage sur le terrain. Il fallait que tu racontes ce que tu voyais. Donc, moi, j'étais dans du reportage très de proximité. Donc, moi, je me souviens, mon premier reportage, j'étais allée voir un producteur de pommes. Je sais plus quel était le contexte, il devait y avoir une accroche d'actu, mais alors va raconter en radio, et c'est pas à toi que j'apprends ça, va faire parler un producteur de pommes de ses pommes en radio. Voilà, il fallait trouver effectivement ce côté traduire.
Tu peux pas montrer la pomme.
Voilà. Mais il faut que tu racontes l'histoire avec des sons. Franchement, ça a été vraiment un coup de foudre total pour ce métier.
Pour revenir à France Bleu, Périgord, comment tu rentres dans... Parce que tu sais, parfois j'ai des jeunes auditrices, hein, des jeunes auditeurs qui m'écoutent. Comment tu fais pour trouver ce stage comment tu fais pour rentrer à France Bleu Périgord?
Parce que je connaissais un journaliste qui travaillait là-bas, que je connais toujours et que je l'embrasse, Xavier Dalmont, s'il écoute. Il y est toujours.
Salut Xavier.
Voilà, salut Xavier. C'est un journaliste sportif, effectivement, je le connaissais. Et je pense que comment je suis rentrée, je pense que je lui ai posé la question. Et parce que je ne sais pas quels sont les process aujourd'hui, mais je pense que je ne sais pas du tout sont les process, mais voilà, je lui avais posé la question. Après, le process exact, je ne sais pas. Il m'avait dit, oui, viens passer une semaine, on t'accompagnera, et voilà, il y est toujours. Et j'y suis retournée il n'y a pas longtemps. France Bleu, ils m'ont invité très gentiment il y a, je ne sais pas, je ne sais plus quand est-ce que j'étais en Dordogne, mais il n'y a pas si longtemps, peut-être à Noël. Voilà, ils m'ont interviewé, j'ai eu c'était un petit côté émouvant de revenir. Alors, ils avaient déménagé, mais de revenir et de voir certains visages que je connaissais.
Donc une fois que tu découvres ce truc-là, d'un coup d'un seul, ça y est, c'est ta passion.
Et alors c'est ma passion et je sais que je veux faire ce métier.
Ah, tout de suite.
Ah ben je sais que je veux faire ce métier, c'est un coup de foudre. Je retrouve le moyen, c'est pareil d'aller faire un stage après chez Sud-Ouest. J'ai grandi à Périgueux, donc voilà pourquoi. Donc je traîne un peu dans les rédactions effectivement locales qui ont été super, qui m'ont accueilli. Et il y a une chance formidable avec la PQR, hein, la presse quotidienne régionale, et ainsi que les radios locales, c'est que tu peux... Moi, en tout cas, à mon époque, et j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils te laissent faire des choses. C'est-à-dire que voilà, t'es stagiaire, mais t'as le droit de partir avec ton agra et voilà, t'as le droit aussi en presse écrite d'aller rencontrer des gens, on te publie, c'est formidable. Je trouve que c'est une expérience exceptionnelle et vraiment, t'apprends là effectivement le cœur de ton métier sur le terrain. Bon, j'en ai un souvenir, mais fabuleux. Donc, je passais mes mois d'été dans les rédactions de Périgueux, puisque j'habitais là-bas, effectivement, à faire des stages. Et voilà, et ça part comme ça. Puis après, je vais en faire mon métier. Et alors, c'est là que mon père n'est pas d'accord.
Ah.
Mon père avocat, il n'est plus là, le pauvre, il est décédé il y a 11 ans. Mmh. Mais mon père avocat, qui était quelqu'un de formidable, avait décidé qu'il fallait que je fasse du droit. Ah, ouais, ouais, t'as tout compris.
Ah, les parents.
L'enfer. C'est-à-dire que pour lui, journaliste, c'était très sympa, mais c'était pas un métier. Tu vois? Je pense que, voilà, c'est ça. Si tu avais dit que je voulais faire une émission de télé-réalité ou un truc comme ça, c'était un peu l'équivalent aujourd'hui, si tu veux traduire. C'était pas un métier, tu vois?
Pourtant, il y a un truc un peu noble, tu vois, derrière l'aspect
c'est
journaliste.
C'est pas une question de noble, mais je pense qu'il avait peur, effectivement, du côté peut-être un peu instable. On sait que ce sont des secteurs qui sont dit, on a toujours entendu dire ça. C'est précaire. Donc, je pense que c'est ça qui l'inquiétait énormément. Il s'est dit, ah là là, ma fille est partie, est partie dans des sphères qui sont compliquées. Donc, je me bats avec lui. Enfin, il finit quand même par me contraindre à faire du droit. J'ai détesté Fabrice.
Ah, donc t'es...
Ouais, il m'a obligé à revenir à Périgueux faire du droit alors que j'étais pensionnaire à Bordeaux. Tu vois, j'ai passé mon bac à Bordeaux et j'étais pensionnaire. J'ai adoré ça. Et il m'oblige à faire.
Alors que tu passais tes étés dans les rédacs et tout.
Puis il avait dû avoir des remontées. Mais je pense qu'au début, il m'a laissé faire. Et puis quand il a vu vraiment que c'était sérieux et que je voulais vraiment en faire mon métier, je pense que ça l'a inquiété. Mais comme un père, comme on pourrait s'inquiéter effectivement peut-être d'enfants qui aujourd'hui voudraient faire un métier où tu te dis, mon Dieu, dans quel secteur il met les pieds, ça va être compliqué. C'était plus par... Mais bon, c'était mon père était d'une génération où on discutait pas trop, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'autorité. Voilà, bon, écoute, il m'a dit... il a fini par me contraindre à revenir faire du droit. Et alors, j'ai détesté. C'était pas du tout fait pour moi. Oui. Je pense que, tu sais, quand tu travailles sous la contrainte et que t'es pas très motivé en fac, ça donne pas grand-chose. Donc, je finis par planter mon année de droit, ce qui était évident, puisque voilà, je suivais pas ça avec beaucoup d'assiduité. Puis finalement, je finis par aller venir à Paris. J'ai trouvé une école qui a muté, qui s'appelle aujourd'hui, j'ai oublié son nom, faudrait que je retrouve, c'est atroce, qui existe toujours, hein, qui est à Paris. Et je rentre dans cette école et finalement, et j'en profite pour faire des stages.
Mais avant ça, t'as défié l'autorité parentale,
ouais,
paternelle.
Il y a un moment, il n'y a plus le choix, c'est-à-dire que moi, il ne me voulait plus en fac de droit. Tu vois, parce que j'ai fait deux premières années, mais enfin, c'était pas du tout pour moi. Non, ça a été une période hyper compliquée de ma vie, ça. C'était une période très compliquée, parce que je savais, enfin, c'était pas du tout dans mon secteur.
Ouais. Et t'es allé voir ton père et tu lui as dit, c'est fini.
À un moment, il a lâché. Okay. Moi, je pense qu'il a dû, il a dû se rendre compte. À un moment, il a lâché.
Okay.
Et puis, il m'a vu il m'a vu quand même, il y a 11 ans, j'avais commencé, il devait être rassuré. C'était pas quelqu'un qui exprimait ses sentiments ou qui disait les choses. C'était une génération assez pudique. Tu sais.
C'est les darons de la vieille école. Hein.
C'est ça, les darons de la vieille école. Putain. Exactement. Donc voilà. Mais je pense que sur le fond, enfin, voilà, il était rassuré. Il était rassuré. Mais ça a été un combat avec lui. Mais c'est certainement. Ça forge. Moi, je trouve que c'est une sacrée expérience. J'en veux pas du tout parce que finalement, ça m'a forgé le caractère. Et il a fallu aussi que j'ai de la force de persuasion pour pouvoir y arriver.
Ça défier le père.
Défier le père, exactement.
Tu rentres dans cette école, donc ?
Ouais, je rentre dans cette école. 2 ans, 3 ans. Je fais beaucoup de stages, pareil. Et je finis par faire un stage à BFM Radio, à l'époque, qui était une radio généraliste, qui se trouvait à Puteaux. Qui a été racheté par Alain Veil au moment à peu près où j'arrive. Donc, je pense que j'y suis allée plusieurs fois, hein, donc stagiaire, puis pigiste. Là, je rentre dans l'univers formidable des piges où tu fais tout, t'occupes tous les postes puisque tu remplis des trous. Donc là aussi, j'ai énormément appris mon métier. Et puis, je commence à la présentation finalement assez vite parce qu'on me dit, c'est simple, le secrétaire général, alors quel équivalent, comment on peut dire, un secrétaire général, c'est celui qui s'occupe en gros des plannings,
ouais.
Qui s'occupe me dit, écoute Pascal, si tu veux continuer à bosser, on n'a plus de piges en reportage. Alors que moi, c'était vraiment ça, c'était le reportage. On a des piges en présentation. Bon, bon an, mal an, je me dis, écoute, il faut bien gagner sa vie, hein, faut bien manger. Donc je me dis, écoute, très bien, je vais me lancer dans la présentation. Et en fait, ça part comme ça. C'était pas du tout ce que. Enfin,
oui,
un rêve.
C'est pas du tout le même métier pour expliquer un peu aux gens
quand
d'aller
métier.
Sur le reportage ou d'être en studio, rien à voir.
Mais
quoi.
C'est essentiel d'être allé sur le terrain pour comprendre après une fois en studio. C'est hyper important, quand t'es en studio, de garder un lien toujours avec le terrain, d'être au plus près, effectivement, des téléspectateurs aujourd'hui, des auditeurs avant. Mais c'est important de garder ça. Et d'être passé par le terrain. Enfin, je pense que.
Qu'est-ce que tu as appris sur le
formateur.
Terrain
Tout, le contact avec les gens. Non, mais c'est vrai, tu apprends tout. Je te promets, tu as le contact avec les gens, comment appréhender effectivement les interviews. Tu apprends l'empathie, parce que tu vois, tu apprends, tu renforces l'empathie. Tu dois en avoir, je pense, pour faire ce métier de l'empathie. Donc tu vas au plus près, là où l'actualité se passe, et tu rapportes. Et c'est vraiment c'est le cœur du métier de journaliste. Voilà. Après, moi, j'ai pris ce chemin-là parce que je te dis, ça commence, mais vraiment, juste pour une question de. Faut bien payer son loyer à la fin du mois, ça commence comme ça. Donc, je me dis, bon, très bien, présentation. Et en fait, je suis partie là-dedans et puis, j'ai plus jamais arrêté.
Ok.
Tu vois, je commence en radio, mais je sais pas, c'était en 2000, je sais même plus, 2001, j'ai eu ma carte de presse, donc tu vois, ça commence en 2001.
Ok. Ça. Et donc tu fais à l'époque déjà les matinales, c'est ça? Sur
alors,
BFM
oui,
Radio.
Figure-toi que tu vas rigoler. Bon, je crois qu'un de mes premiers postes de présentation, c'était de remplacer Céline Baïdarcourt, qui est à France Info aujourd'hui, que j'embrasse aussi, qui s'était absentée pour un congé maternité. Et je la remplace, elle faisait les journaux de la nuit, en matinale. Donc voilà, je la remplace et ça commence comme ça. Et puis après, on est racheté par un aveil. Je suis reprise. Donc là, je commence à faire de l'écho, puisqu'il avait transformé BFM Radio, qui est en écho, tu sais, ouais. En chaîne écho, voilà. Et puis ça suit son cours, la télé commence à se produire. La télé, je pars en congé mat de ma fille, j'ai eu deux enfants. Donc j'ai eu un fils, j'étais déjà en matinale. je faisais les flashs dans la matinale, les flashs, c'est comme ça, ouais. Quand Anne Veil rachète, crée cette radio qui s'appelait le BFM Business, d'accord. Je faisais les flashs infogénés. Dans la matinale qui était déjà une matinale écho.
Okay.
D'accord. J'ai mon premier enfant, un garçon, qui s'appelle Pierre.
Salut donc, Pierre.
Ouais, salut Pierre. Voilà. Qui a 15 ans aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui voilà.
Non, pas aujourd'hui. Ah, enfin, qui a eu 15 ans, il a même okay. 15 ans.
Ouais, il est grand.
Il est grand, ouais. J'ai un grand ado d'1m80, tu vois, à la maison. Et là, ils me font passer en journée. Donc voilà, j'ai fait les gros journaux de la mi-journée du soir. Et après, j'ai deux enfants, j'attends ma fille 3 ans plus tard. Et là, donc, je n'ai pas mon poste quand je rentre. Donc, j'en profite pour faire une formation télé au CFPJ.
OK.
Parce que Alain Veil, à l'époque, annonce a l'intention de transformer cette radio en télé, ce qui est le cas aujourd'hui.
Ouais.
BFM TV existe déjà. Mais BFM TV, c'est hors de mes radars. Parce que moi, ma passion, c'était la radio. Et je fais vraiment cette formation au CFPJ pour être au point le jour où BFM Business basculera en télé. Et là, il y a Claude Samper, journaliste de France 2, qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas très longtemps, qui me fait cette formation et qui me dit, alors que j'étais de la seule de radio, le matin, toi, il faut que tu y ailles. Ah bon ? Alors je faisais cette formation un peu par hasard. Toi, il faut que tu ailles. Et il donne le DVD.
Quand il dit il faut que tu ailles.
Parce qu'après la cassette audio, il y a le DVD.
Putain. À l'ancienne. D'accord, tu nous as pas dit la VHS, ça va ?
Ah non, la VHS. Non, alors non, la VHS, j'ai pas connu en télé ça. Mais il donne le CD, enfin mes essais, tu vois, sur un CD à BFM TV et après c'est parti.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ah ouais.
Voilà. Bah après oui, il m'appelle pour faire des remplacements l'été, puis après je tourne pareil. Et après la matinale en 2010 en poste fixe.
Et alors là tu te mets dans l'image.
Et là rien je me mets dans l'image. Ah mais rien à voir. Alors, très bien d'avoir une formation radio, c'est enfin surtout dans une chaîne info, je trouve que quand tu es passé par la radio que tu as enfin que c'est une super formation. C'est une super formation. J'avais déjà travaillé en radio, j'avais déjà appris à structurer effectivement des journaux en radio, et c'est une aide en fait. Donc c'était une aide sur l'écriture, sur la façon de poser sa voix, c'est important aussi en télé. Et quand tu as appris ça en radio, après tu l'appliques spontanément en télé, c'est
surtout,
une aide.
Tu as l'aide de l'image en plus, quoi qu'il arrive.
Tu as l'aide de l'image et la contrainte de l'image parce que là, tu vois, tu as à la fois l'aide et tu as à la fois la contrainte de l'image, t'es plus libre en radio.
En quoi c'est une contrainte ?
Ben, l'image, tu peux pas comment te dire, c'est une contrainte, il faut avoir les images pour pouvoir parler d'un événement, pour pouvoir le raconter, pour pouvoir le faire vivre. En télé, c'est bien d'avoir l'image. En radio, tu peux le faire vivre avec ta voix. Tu dois le faire vivre avec ta voix. En télé, il faut que tu aies l'image.
Même à l'écrit, voilà. D'ailleurs. Tu peux aussi le faire et vivre par tes mots.
Bien sûr, évidemment, à l'écrit. Oui, alors ça, je ne sais pas passer. Je dois avoir moins le talent. Effectivement, j'admire les gens qui ont une plume exceptionnelle que je n'ai pas. Moi, je suis plus factuelle, en tout cas. Voilà, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas une plume exceptionnelle. Je suis plus dans l'informatif. Et après, je ne lis pas beaucoup, moi. Dans mon exercice aujourd'hui, je ne lis pas. Je lis pas. J'écris très peu.
Ok.
C'est-à-dire que je digère les informations et j'essaie de raconter, si tu veux, dans mon rôle, être un fil rouge conducteur de cette matinale et de raconter plutôt que de lire.
Ah ouais, donc t'es en...
Ah oui, alors j'ai des feuilles partout, il faut que tu un jour tu viendras voir. Ouais. C'est-à-dire que sur mon bureau, il y en a, mais partout. Il y a des... Alors c'est un bazar organisé dans lequel je me retrouve.
Okay.
Ça m'arrive de perdre des feuilles de temps en temps. Mais j'ai un support visuel. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est me dire que je parle à quelqu'un, ouais, et que je lui raconte quelque chose. Mmh. Donc j'aime bien cette idée, cette notion de parler au téléspectateur. Informer le téléspectateur en lui parlant, en s'adressant à lui et pas en lisant un...
T'as quand même un filet de sécurité.
Ah ben, évidemment. Ah bah non, mais bien sûr, quand je te dis, j'écris pas. Non, non, mais si.
Non, mais j'allais dire, la meuf est en... Est
ah non, freestyle total.
Sans filet total,
non, non,
bravo.
Non, non, j'ai des filets de sécurité avec, ouais, des fiches, bien sûr. Non, non, j'ai des fiches partout. Parce que d'abord, la fatigue, parce que 3 heures, c'est beaucoup.
Oui.
Que, tu vois, tu peux oublier des noms, des chiffres, des... Donc voilà, ça t'aide, évidemment. Mais c'est des supports visuels plus qu'une lecture, voilà.
Je vois ce que tu veux dire.
Ça, c'est mon mode de fonctionnement.
Ouais, bah tu vois, moi non plus, j'ai pas de...
Ouais, c'est bien.
J'ai pas de fiches, je te parle.
Voilà, c'est bien de parler. Et parler à ceux qui nous écoutent aussi. C'est,
ouais,
ça, c'est bien, effectivement. Je trouve que ça crée un lien.
Parlons un peu de ton rythme de vie, alors qui est quand même, oui, complètement fou, parce que tu te lèves donc à 1h30, 2h du matin,
ouais,
c'est
exactement.
Ça,
exactement. Je suis à la rédaction vers 3h, 3h30. Et après, ça va très, très vite. L'avantage d'une matinale, c'est que ça passe très, très... Une fois, la douleur du réveil au milieu de la nuit, après, ça va très vite. C'est l'avantage de la matinale. Tu sais, puis la matinale...
Excuse-moi, mais c'est une douleur tous les matins?
Ah bah oui, je vais pas. Tu sais, je suis pas Wonder Woman. Personne n'est, enfin, même de toute mon équipe, effectivement, quand le réveil sonne, si tu veux, et que t'as dormi 2 heures ou 3 heures, bon, ça pique un peu, tu vois. Donc,
parce que tu dors vraiment aussi peu, c'est-à-dire que tu décales pas tes journées.
Ah ben non, tu peux pas, parce qu'il faut que je sois toujours en lien avec l'actu. Et tu sais, le soir, avec mon rédacteur en chef, Bastien Morassi, on se parle tard. Donc parce que l'actu évolue. Et puis moi, en matinale, j'ai l'intérêt, je dois raconter effectivement ce qui s'est passé la nuit, d'abord en priorité, avant de se projeter sur la journée, tu vois. Donc ça pousse très tard. Et voilà, donc non, je me couche à 22h30.
Oui, donc 22h30, ça fait
3 heures, tu vois, ça fait 3 heures de sommeil. Et après, je vais refaire une sieste. Je dors 2 heures, tu vois. Quand on aura fini de...
Tu vas faire une sieste juste après nous, là, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est petit dodo.
Un petit dodo de 2 heures dans la journée.
Oui, puis j'imagine que si tu te couches trop tôt non plus, t'as plus de vie sociale,
ah bah
d'une
non,
manière générale.
Tu
racontais que t'avais, ouais, des enfants et tout.
Ouais, j'ai des enfants, exactement. Et enfin, la vie sociale, tu sais, je vais te dire, ce rythme-là, la matinale, c'est magique. C'est magique parce que tu travailles en équipe restreinte. T'es perturbé par rien la nuit. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis ça va très vite. Mmh. Tu vois, quelqu'un qui travaille dans une rédaction, t'as du téléphone qui sonne, on peut te solliciter pour plein de questions. Là, de toute manière, il se passe rien la nuit. Donc tu vas très vite. C'est un privilège de travailler dans ces conditions. C'est un privilège d'allumer une antenne, de dire bonjour aux gens, voilà, bonne journée, vous vous levez, on vous accompagne jusqu'à ce que vous partiez travailler. Voilà, s'il n'y avait pas ça, je pense que voilà, faut pas le faire. Parce que c'est des contraintes, effectivement, sur ta vie personnelle qui sont très importantes. Et pour tes proches aussi. Faut reconnaître les choses. Moi, j'ai une rigueur militaire. C'est la seule chose qui te permet de tenir. C'est-à-dire que pas de sortie. Pas un seul verre de vin, excusez-moi, mais tu vois, un petit verre de vin de temps en temps, tu vois, le dîner ou un truc comme ça, jamais. Parce que le verre de vin que tu vas boire le soir, tu vas le payer le lendemain.
Ouais.
Même si c'est infime.
Ouais.
Mais tu sens effectivement ça. Donc pas d'alcool, pas de sortie à la semaine, bien entendu. Donc mes amis, je les ai au téléphone, mais on ne se voit pas. Mais c'est ça, toute la semaine. Pas de cinéma, pas de théâtre, évidemment, parce que sinon tu t'endors, tu peux aller au théâtre si tu veux, mais à 20h, ouais, 20h30, il n'y a plus personne. Ça m'est arrivé un nombre de fois, malheureusement, et je lutte, mais bon. Oh, ça c'est terrible quand t'as envie de voir effectivement une pièce ou
et le week-end, j'imagine que c'est, enfin, t'arrives pas de cette là à reprendre un
rythme
normal.
Alors le week-end, je m'oblige, alors si parce que moi j'aime voir mes amis, j'aime rencontrer du monde, ça c'est vraiment, voilà, essentiel effectivement pour moi. Donc le vendredi soir, si je sors le vendredi soir et le samedi soir.
Tu fais une petite sieste?
Ouais, le samedi, ouais, il y a une petite sieste qui s'impose
au milieu
parce
de la soirée,
tu t'éclipses.
Voilà.
Non, alors le vendredi soir ça pique, hein. Tu fais sur le coup de 23h,
ouais, il faut être... Et parce que tu t'es levé super tôt de cette là.
Je me suis levé super tôt, puis je me jet lag dans l'autre sens, en,
ouais,
fait. C'est l'histoire de jet lag, c'est comme si je faisais Tokyo-Paris toutes les semaines, tu vois, au niveau du fuseau horaire, c'est à peu près ça. Donc voilà, ça, et le samedi soir je sors aussi, puis j'ai évidemment ma famille et mes enfants dont je m'occupe. Beaucoup, mais moi j'ai besoin de voir du monde, d'avoir une vie sociale. Mais la semaine, c'est vrai qu'elle est réduite à néant, et que la semaine elle est consacrée effectivement, bien entendu, à mes enfants, mais au travail.
Parce que tes enfants, ils t'ont vu que faire ça dans ta vie, limite.
Ah ouais, surtout ma fille. Surtout ma fille, ouais. Effectivement. Bon, mon fils, voilà. Mais ma fille, elle n'a connu que ça. Donc, ça fait partie. D'ailleurs, elle me disait, maman, t'es une maman hibou. Moi, quand je parle de toi, okay. t'es maman hibou. C'est-à-dire que tu vis la nuit. Ben voilà, c'est ça. Okay. Et je me souviens de Flore, un jour, qui m'avait dit, elle s'appelle Flore. Ça m'avait un peu surprise. Mais comme elle avait connu que ça, elle m'avait dit, quand j'étais avant à BFM TV, elle m'avait dit un jour, elle devait avoir 4 ans. Elle me dit, maman, tu m'inviteras un jour dans ta maison à BFM TV? Mon Dieu, je me suis dit, c'est horrible. C'est-à-dire que ma fille s'imaginait que j'avais une double vie, tu vois, que je vivais dans une autre maison et que ça dérangeait personne et que, voilà.
Elle se lève le matin, t'es pas là.
Elle se lève le matin, je suis pas là et elle me voit effectivement. Elle me voit à la télé. Donc elle pensait que j'avais une deuxième maison. Ça m'avait fait. Alors j'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, ça m'avait une petite frayeur, une petite larme. J'ai dit, oh zut, il va falloir quand même lui expliquer ce que c'est. C'est vrai qu'on se pose pas ces questions en tant qu'adulte, mais les enfants se la posent.
Oui, j'imagine que de ce fait-là, ton mec était pareil. Sur le...
Ah bah lui, ça fait 20 ans qu'il subit ses horaires. Puis je crois qu'il a arrêté de se poser la question. Ça fait très longtemps, effectivement, qu'il le sait. Il sait qu'il est avec quelqu'un qui... voilà. Moi, je suis une passionnée. Je pense que ça ne fonctionne qu'à la passion. Si on n'a pas la passion, ça ne peut pas fonctionner.
Voilà. Et tu n'as jamais eu envie de changer de rythme?
Écoute, ça ne sait pas... Comment te dire ça... Enfin, est-ce que j'ai jamais eu envie de changer de rythme? Le jour où, effectivement, on me fera une proposition qui soit... Ouais.
Je veux dire, t'es passé de BFM à LCI à ouais. l'époque, et c'était pour faire la matinale. C'est-à-dire
ouais,
que
c'était pour faire la matinale. Mais c'est pour ça qu'LCI vient me chercher.
Okay.
Tu vois, c'était pas pour aller faire une autre tranche horaire, c'était pour la matinale, parce qu'il y avait un gros challenge, et c'est ça qui m'a plu, effectivement. Parce que des propositions, j'en avais eu quand j'étais à BFM TV. Mais celle-là, je sais pas, elle m'a séduite parce que je me suis dit, là, il y a un challenge, je pars sur un terrain que je connais, et il y a un gros challenge. Il y avait un gros challenge parce qu'il fallait, tu sais, LCI venait de passer en gratuit. Voilà, il y avait un challenge, il fallait booster cette matinale parce que sur une chaîne info, la matinale, c'est un carrefour, c'est central, effectivement. Il faut que la matinale soit puissante pour pouvoir porter après le reste, en tout cas, de la matinée. Donc, t'as quand même, effectivement, une certaine pression. Et il fallait faire un produit, voilà, trouver, effectivement, un produit qui corresponde aux téléspectateurs d'LCI.
Un autre truc aussi qui est particulier, c'est que t'es seule à l'antenne, t'es une femme seule à l'antenne, et tu diriges seule cette matinale. C'est... Ouais. Habituellement, il y a toujours un gars.
Ouais, c'est exactement ça. Soit on colle effectivement un gars dans les pattes d'une femme, soit c'est un gars tout seul. Je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est pour ça que je suis venue aussi à LCI. Parce que quand ils m'ont proposé ça, voilà, ils m'ont proposé aussi d'être la patronne de la matinale. Donc c'était aussi un challenge, bien sûr, à titre personnel, bien sûr. Fabrice, t'as raison de le souligner. Et d'ailleurs, écoute. Comment te dire? Ouais, te dire, je suis l'une des seules femmes à la tête d'une matinale aujourd'hui. Bah oui, j'en suis assez fière, tu vois. Donc, je me dis, c'est chouette, enfin, fière. C'est-à-dire que je me dis, c'est bien pour les femmes, tu vois. Non, mais c'est bien pour les femmes. Une femme est capable de tenir une matinale.
Mais imagine la petite Pascale, tu vois.
Ouais, la petite Pascale, celle de 7 ans sur ses pointes.
Non, qui a 15 ans, qui est en train de se passionner pour le journalisme, et en fait, qui te voit à la télé, et qui se dit, c'est cool, c'est possible, quoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Il faut toujours croire en ses rêves. Et ça, c'est le message. C'est vrai qu'on a beau dire, le secteur du journalisme n'allait pas mieux. D'ailleurs, d'où les inquiétudes de mon père à l'époque, n'allait pas mieux quand on s'est lancé, toi et moi, Fabrice. Tu vois, donc...
Déjà à l'époque, c'était déjà la merde.
C'était déjà la merde, oui, ça c'est certain. Mais tu vois, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Moi, ça, j'en suis... Quand on a une passion, quand on a le feu sacré, quand on croit en quelque chose, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Parce que quand on a la volonté, on y arrive. Et ça j'en suis intimement convaincue. Je ne dis pas que le chemin n'est pas, pas difficile. Je ne dis pas que ton parcours n'est pas semé d'embûches. Bien sûr que si, tu vas te manger effectivement des portes, tu vas avoir des moments difficiles, mais quand on y croit, on y arrive.
Tu l'as vécu, toi, dans ton parcours, le sexisme ordinaire au sein des rédacs?
Mais oui.
Je te demande pas de citer de nom, hein,
non,
tu vois, mais
parce
des situations.
Pas de nom, et en plus, tu vois, j'ai pas de compte à régler particulier.
Oui.
Même les personnes, effectivement, qui ont pas cru en moi à un moment, ou qui, parce que, je leur en veux pas du tout, et je les vois encore. D'abord, tu sais, t'as une époque, je pense que l'époque est en train de changer, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin! L'époque est en train de changer. Mais c'est vrai que le milieu de l'information, alors moi j'étais dans le news en plus, donc le milieu de l'information était un milieu extrêmement masculin. Et effectivement, tu donnais de la crédibilité aux hommes, plus, plus qu'aux femmes. Mais bien sûr, d'ailleurs, tu les cites sur les doigts d'une main, hein, les femmes, effectivement, dans l'univers de l'information, effectivement, qui ont fait carrière, il n'y en a pas 36 000. Et voilà, il fallait se battre. Mais c'est super. Je trouve que c'est formateur. Et aujourd'hui, c'est en train de s'ouvrir. Et c'est une très bonne chose.
Le terrain te manque pas trop aujourd'hui ?
Le terrain, alors j'ai de la chance de pouvoir de temps en temps, et d'ailleurs je casse les pieds à LCI, Fabien Damias doit le savoir, mais les délocalisations, j'adore ça. Donc là, je vais retourner sur le terrain dans le cadre d'une délocalisation. On n'en fait pas tous les jours, mais
En gros, pour expliquer la délocalisation, c'est que vous prenez l'émission et vous allez la mettre en dehors des studios, quoi.
Alors, tu as tout. Voilà, c'est exactement ça. Pardon, tu as raison, parce qu'effectivement, parfois on utilise des termes barbares. Sortir effectivement de la rédaction pour aller sur le terrain. La dernière fois où je l'ai fait vraiment pour du news, c'était Notre-Dame. Alors là, j'y suis allée toute seule. On n'a pas délocalisé toute l'équipe. J'étais toute seule, effectivement, devant Notre-Dame. Des invités sont venus et je crois que j'ai tenu 5 heures. 5 heures, effectivement, avec des invités qui venaient au fur et à mesure. Et puis, je bougeais autour de Notre-Dame. C'est vrai que c'était spectaculaire et terriblement triste. Donc ça, oui, tu vois, là, bien sûr, dans ce genre de mais là, c'est le cœur de ton métier, aller sur le terrain, aller montrer, aller voir ce qui se passe sur place avec tes yeux pour pouvoir, effectivement, en montrant les images, bien sûr, le retransmettre au téléspectateur qui n'est pas sur place. Donc oui, ça, j'aime beaucoup. Oui, le terrain, bien sûr, j'adore. Bien sûr, mais je te dis, si m'écoutent, ils le savent, je demande des localisations. Enfin, tu vois, j'ai cette volonté, ça devient presque un gag, parce qu'on ne délocalise pas comme ça. D'abord, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un secteur effectivement, qui n'a pas, après la crise qu'on a connue, effectivement.
Voilà, depuis quelques mois, c'est encore plus compliqué.
Tout le secteur, effectivement, on est plutôt... Et tout le secteur, en tout cas, des médias, doit faire attention. On ne peut pas dépenser comme ça de l'argent par les fenêtres.
Expliquer un petit peu, c'est comme ça vient de la publicité. Exactement. Comme la grande majorité de vos revenus, ou la quasi-intégralité de vos revenus chez TF1 vient de la publicité.
Toutes les boîtes privées, en fait, toutes les entreprises privées, effectivement, dépendent de la publicité. Donc voilà, mais ce sont des entreprises qui ont souffert. Donc voilà, moins de publicité. Et tout le secteur, aujourd'hui, doit faire attention. Donc, c'est pas chez nous particulièrement. Je trouve qu'on est plutôt bien lotis et plutôt épargnés. On est dans un groupe solide. Donc ça, c'est une chance. C'est vraiment une chance d'avoir un groupe solide. D'autres n'ont pas cette chance-là. Mais voilà, oui, bien sûr. Donc, on ne délocalise pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un moment, effectivement, important pour donner du relief à l'événement.
Ok. Je voulais te parler et j'en profite pour en parler aussi aux auditeurs, aux auditrices. Je ne sais pas si tu as vu cette série qui s'appelle The Morning Show.
Ah, mais bien entendu. Bien sûr, avec Jennifer Aniston.
Oui.
Alors, bien sûr, je l'ai regardé. Tu penses bien que je me suis abonné à Apple.
Donc, c'est sur Apple TV, voilà.
Oui, c'est sur Apple TV, voilà. Pour la regarder. Alors, que te dire ? Même très très loin de ce que je vis.
Je fais un petit pitch, hein, mais oui, c'est vas-y. Jennifer Aniston et Steve Carell qui sont co-hosts d'un, mais pour le coup pas d'une matinale. Alors si, c'est en plus c'est une matinale d'info, mais plus
à l'américaine,
à l'américaine, avec de l'entertainment dedans, etc., etc. Et il y a une histoire de harcèlement sexuel Steve Carell qui est le co-host se voit accusé de harcèlement sexuel
et il perd son poste du jour au lendemain.
Voilà, il se fait virer.
Alors que c'est une star
énorme
aux États-Unis. Bah,
c'est l'équivalent de TF1. Enfin, l'équivalent de TF1.
Ah, oui, ils sont sur l'équivalent de TF1. Aux États-Unis, les matinales sont ultra puissantes. Donc, c'est effectivement exactement. Ils sont sur de l'équivalent.
Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Alors, la série, elle m'a beaucoup amusée. Elle est très très loin de la vérité, de ce qu'on vit nous en tout cas. Ouais. Voilà, parce qu'on se demande si tu regardes la série, quand est-ce qu'elle travaille, Jennifer Aniston, tu vois. C'est tout est autour de l'intrigue. Mais ça donne un peu, mais c'est vrai. Bon, ceux qui ont vu la série comprendront.
Ceci dit, ça marche bien.
Elle se réveille à 3h du matin, elle est maquillée dans son immense appartement qui surplombe je ne sais où, parce que je ne sais plus où ça se passe.
À New York.
Voilà, c'est à New York. Ouais, c'était à New York. Voilà, c'est assez loin de ce qu'on vit, mais bon, il y a quand même deux ou trois choses, effectivement, qui nous parlent. Le réveil, par exemple, l'ambiance d'une matinale, et du duo, effectivement, qui a été très à la mode.
Ok. Alors, ceci dit, moi, je dis à tout le monde, regardez-la, parce que je trouve qu'il y a un message par rapport à MeToo et au harcèlement qui est vraiment extrêmement fort.
C'était effectivement dans l'air du temps quand ils ont pris en tout cas cette problématique, c'est sûr.
C'est quoi tes projets chez LCI ?
Écoute, j'espère être encore là l'année prochaine. Ouais. Tu vois, on va attendre que Fabien Damias donne son feu vert. Donc voilà, non, j'espère encore être là l'année prochaine, mais je pense qu'il y a encore des choses à bâtir sur. Tu sais, faut l'installer une matinale, ça s'installe. Et puis après.
Ça fait 3 ans maintenant, c'est ça.
Ça fait 3 ans, c'est la fin de ma saison, de ma 3e saison. Ouais. Et voilà, je suis toujours enthousiaste évidemment à l'idée de construire et de faire progresser cette matinale, bien sûr. Et puis après, écoute, on verra. Mais je suis je suis une femme de challenge. Donc ce qui m'intéresse, c'est le challenge. Évidemment, il faut pérenniser ce qui a déjà été mis en place et puis après, on verra. Mais je pense que dans notre métier, on ne peut pas se faire un plan de carrière.
Ah ouais ?
Bah non, on ne peut pas se faire un plan de carrière. Je pense qu'effectivement, il y a des opportunités que tu dois saisir ou pas, en fonction de ce que tu aimes, de ce qui te correspond. Pardon,
c'est
je sors de 3 heures d'antenne.
C'est l'heure d'aller dormir
bientôt.
Je commence
à perdre mes mots. C'est l'heure de l'apéro, moi, presque.
Ah oui, tu vois, c'est
clair. 9h du matin, c'est presque l'heure de l'apéro. Non, je plaisante, on a dit pas d'apéro la semaine. et avec modération.
Non, mais t'es à l'heure du goûter, en vrai.
Oui, c'est l'heure du goûter, ouais, c'est ça. J'allais bruncher. Donc voilà, ouais, je pense qu'on ne peut pas se faire un plan de carrière.
Pour expliquer un petit peu, en fait, vous travaillez à la télé d'une manière générale en saison. Donc tous les ans, il faut repartir.
Bien sûr, il faut repartir, exactement. Si, bien sûr, on te fait repartir. Parce que, toi, tu peux avoir une envie, la direction peut avoir envie d'autre chose, avoir envie de changement, et c'est tout à fait légitime.
C'est généralement des contrats d'un an.
Alors moi, je ne suis pas en contrat.
Je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Mais...
Voilà. Non, mais c'est vrai que toutes les saisons, tu fais un bilan. Ouais. Tu tires les enseignements de toi, ton envie de continuer et la direction, il faut qu'elle ait aussi l'envie que tu continues. Donc voilà, ça se décide effectivement en fin de saison. Voilà, mais c'est vrai que là, on a tellement été pris par l'actualité que vous connaissez bien entendu, que bon, c'est en cours de discussion maintenant.
Ok. Merci beaucoup, Pascal.
Merci, Fabrice. C'est sympa d'être venu jusqu'à nous.
Avec grand plaisir.
Qu'un jour, tu viendras voir une matinale.
Oh oui.
Tu pourrais, tiens, mais ce serait sympa.
Je vais me lever à 2h du matin pour venir.
Non, mais tu peux venir à 6h.
Moi, généralement,
allez,
je me couche.
Allez,
7h. Tu sais, moi, je me couche tard, je fais dans l'autre sens.
Ouais, je sais. Mais comme tout le monde, en fait. Hein.
Je me couche plutôt vers 2-3 heures du matin.
Ouais, 2-3 heures du matin. Bon, bah écoute, on pourra se parler au réveil. Pour moi, je prendrai un café et tu prendras une tisane.
Un grand merci.
Merci, Fabrice, et merci à tous.
Salut.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.